France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Rémi Durand.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes, comme le dit la quatrième de couverture de ce livre que vous publiez, sociologue des sciences et des techniques. Car oui, et c'est important, vous êtes spécialiste des implications culturelles, politiques, économiques, des nouvelles technologies, notamment celles issues de la Silicon Valley, on a envie de dire. En tout cas, des nouvelles technologies. Vous êtes ingénieur et vous publiez ce livre qui s'appelle « L'évangélisme technologique de la révolte hippie au capitalisme high-tech de la Silicon Valley ». C'est paru aux éditions FIP, au FIP édition, dans une collection qui s'appelle « Reboot » et qui publie en général des livres assez intéressants dans cette matière, qui est la nôtre aussi. Est-ce que vous pourriez peut-être tout simplement me donner une définition de ce que vous, ou ce que d'autres d'ailleurs avant vous, appellent l'évangélisme technologique ? De quoi on parle quand on parle de ça ?
Alors, on peut comprendre cette expression de deux façons différentes. La première, alors déjà, c'est pas une expression de moi, c'est une expression qui a été inventée par Apple au début des années 80, et ça désigne en fait une méthode marketing. Et en fait, le but, ça a été inventé au début des années 80 pour le lancement du premier Macintosh. Et le but de cette méthode, c'est d'inciter des développeurs extérieurs à l'entreprise à créer des applications pour une plateforme donnée. Par exemple, pour le Macintosh, dans le cas d'Apple. Mais aujourd'hui, c'est une méthode marketing qui est utilisée par toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont des plateformes à vendre à des développeurs, comme Facebook, par exemple. Donc, ça peut être utilisé pour un smartphone, pour une télé connectée, un réseau social, tout type de plateforme.
L'homme qui a inventé ça s'appelait Guy Kawasaki en français, c'est ça ?
Guy Kawasaki, c'est ça. Il avait été embauché par Apple justement pour inciter des développeurs à créer des applications pour le Macintosh. En fait, les développeurs, c'est un enjeu stratégique déterminant pour le succès d'une plateforme. Et donc, l'évangélisme technologique, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il intervient. Et la particularité de cette méthode marketing, c'est que elle joue en fait sur le rêve et sur la passion qui est censée susciter une plateforme donnée auprès d'un écosystème de développeurs. Voilà, c'est vraiment sur ce ressort-là que joue cette méthode.
Parce que vous le rappelez très bien dans votre livre, à cette époque-là, Apple n'est pas ce qu'il est et il n'a pas les moyens d'acheter, ou en tout cas de lui-même créer tout ça. Le but, c'est de créer du désir. Et votre livre, quand même, il revient un petit peu aux origines sociologiquement, vous êtes sociologue, la question c'est quels sont les liens aussi, très concrètement, entre la contre-culture qui existait à San Francisco dans les années 50-60, le mouvement hippie, et cette culture des hackers. Comment est-ce que ça devient, à un moment donné, la Silicon Valley ? Vous dites qu'il y a beaucoup à voir dans cette continuité temporelle et des idées avec la manière dont, en réalité, le marketing est devenu un enjeu majeur de la croissance de cette nouvelle technologie.
Absolument. En fait, cette continuité, elle intervient. Alors, elle se voit beaucoup au niveau du marketing, surtout avec Steve Jobs, qui était un peu un grand gourou du marketing de la Silicon Valley. Mais en fait, elle se voit à tous les niveaux du fonctionnement de ces multinationales. Et cette continuité, en fait, en quoi elle consiste, un peu rapidement ? En fait, la contre-culture, c'était un mouvement assez complexe, assez hétéroclite. Mais dans le mouvement hippie en particulier, ce qui était assez prégnant, il y avait deux choses d'assez prégnantes. La première, c'était le refus du capitalisme fordiste, de l'ordre établi. Et le deuxième, c'était en fait, à travers cette forme de révolte, c'était une sorte de quête spirituelle qui consistait en un désir de retrouver dans sa vie quotidienne une forme de magie, une forme, par exemple, de communion avec le cosmos. Et cette quête spirituelle, elle s'exprimait à travers différents types d'expériences, par rapport, par exemple, des expériences au LSD, avec des communautés comme les Merry Pranksters.
C'est ça, parce que vous rappelez quand même que tous ces jeunes développeurs, c'était pas des développeurs à l'époque, mais des hackers, et que pas mal d'ingénieurs du MIT ont fait des grandes expériences collectives comme ça, de prise de drogue, en fait.
Bien sûr, il y en avait beaucoup. Il y avait même, ça j'ai découvert ça, il y avait des centres qui étaient consacrés à faire expérimenter à des ingénieurs de la Silicon Valley du LSD pour les aider à mieux innover, à être plus créatifs. Donc le LSD, alors déjà c'était pas interdit à cette époque-là avant 1966, donc ça posait pas de problème légal. Et puis, et Steve Jobs, c'était un bon exemple d'individu qui a baigné dans ces deux univers. Et alors, ce qui s'est transmis ensuite dans le monde entrepreneurial de la Silicon Valley, c'est cette quête spirituelle, ce désir de magie, d'extase d'une certaine façon, qui a su trouver un moyen de s'exprimer à travers l'innovation technique. C'est-à-dire que des gens comme Steve Jobs et beaucoup d'autres ont trouvé à travers déjà le processus de développement qui est un peu euphorisant et la présentation d'une technologie complètement disruptive comme le Macintosh, comme l'iPhone en 2007, comme beaucoup d'autres exemples, ça crée des expériences collectives qui sont très proches de celles qu'ils pouvaient vivre pendant les acid tests, par exemple, en 1966. Et donc, aujourd'hui, un élément qui est tout à fait central dans des entreprises comme Apple et Google, hein, c'est surtout celle-là que j'ai analysée, c'est cette quête de disruption, cette quête de développement spectaculaire de technologies magiques. Et cette continuité, elle s'exprime à travers le marketing de ces entreprises, à travers aussi le design qui doit être le plus épuré possible, le plus spectaculaire, le plus séduisant, sexy, on pourrait dire.
Et c'est la grande force du Mac et notamment de l'iMac, vous le dites, c'est que alors que jusque-là les ordinateurs étaient des technologies, disons, ouvertes qu'on pouvait bidouiller, non seulement il est beau, mais en plus il est fermé, ce qui en fait un objet magique.
Oui. Oui, oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on recrée un objet magique, si on peut l'ouvrir, voir les cartes électroniques, et puis comment ça fonctionne, ça casse un peu la magie. C'est comme une sorte de profanation, voir ce qu'il y a derrière la scène. Et donc, pour maintenir cette sorte de pureté de l'expérience utilisateur, il faut la maintenir un petit peu fermée. Et c'est pour ça que Steve Jobs, avec une sorte d'obsession, un côté un peu maniaque avec le contrôle autour des technologies qu'il développait. Et alors, c'est expliqué par d'autres choses. On peut voir des mécanismes cyniques pour gagner un peu plus d'argent ici ou là. Mais c'était très lié à ce désir de créer quelque chose de très épuré, de très magique à travers ces technologies.
Et vous le dites, Steve Jobs, qui d'ailleurs, sur le deuxième aspect dont vous me parliez, quand il lance le Macintosh, il désigne l'esprit, l'ennemi à abattre, c'est IBM, qui est à l'époque présenté comme Big Brother. Vous le décrivez bien, ce phénomène, dans votre livre, mais alors, là, aujourd'hui, on est en 2018, c'est-à-dire qu'on est quasiment plus de 50 ans, 40 ou 50 ans plus tard, au moment où toutes ces choses se rejoignent. Que peut-on dire aujourd'hui de l'évangélisme technologique? Est-ce que cette envie de créer de la magie est toujours présente, ou est-ce que à la fin, il ne reste plus que le marketing?
Alors, je pense que cette envie reste toujours au centre de ces entreprises. Alors, en fait, c'est très difficile de continuer à créer des technologies magiques, parce que il y a toujours un certain phénomène de surenchère qui est nécessaire pour créer de la magie. Une fois qu'on a révolutionné, et ça c'est ce qui est reproché à Tim Cook d'ailleurs, c'est que quand on a révolutionné le marché des ordinateurs, puis des lecteurs MP3, puis des iPhones, enfin, il faut toujours présenter quelque chose d'encore plus impressionnant pour continuer à créer une sorte d'extase. Si on fait quelque chose qui est au même niveau de en termes d'impression, on commence à s'habituer et la puissance initiale de la magie créée par les innovations s'affaisse un petit peu. Et donc ça, c'est tout la difficulté de Tim Cook.
Tim Cook, le successeur de Steve Jobs à la tête d'Apple.
Voilà, c'est ça. Mais je pense, enfin, quand on voit comment ces entreprises continuent d'évoluer, et même leurs successeurs, comme quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, qui est considéré comme le successeur de Steve Jobs, on sent qu'il y a toujours cette envie qui est au cœur de leur stratégie de créer des technologies révolutionnaires les plus impressionnantes possibles. Non seulement parce que c'est leur état d'esprit, mais en plus parce que c'est ça qui plaît aux consommateurs. S'ils créent des technologies moins séduisantes, leur chiffre d'affaires baisserait fatalement.
Mais alors techniquement, aujourd'hui, il y a quand même aussi cette inversion. C'est-à-dire qu'à l'époque, Apple était, on peut le dire, le challenger. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont concrètement toutes puissantes. Et même si on parle techniquement, elles ont cette immense intelligence, avec cet évangélisme technologique, de donner pile ce qu'il faut aux développeurs pour qu'ils aient envie de développer pour leurs produits, mais pas suffisamment pour pouvoir renverser l'équilibre. Est-ce que cette position, disons, dominante de ces grands géants, que sont Apple, Google et, disons, Facebook, qu'est-ce qui reste, finalement, dans l'esprit de cette révolution hippie?
En fait, c'est un peu toute l'ironie de l'histoire de la Silicon Valley. Enfin, l'ironie, on pourrait dire même la contradiction qui est au cœur de la Silicon Valley. En fait, cette culture qui émerge un peu dans le mouvement hippie, ces spiritualités qui s'expriment par des quêtes de magie, de communion collective, etc., elle est toujours au cœur de ces grands mastodontes de la Silicon Valley. Au départ, elle s'exprimait à travers une certaine rébellion à l'égard du capitalisme moderne. Mais aujourd'hui, effectivement, alors aujourd'hui, donc cette spiritualité qui s'exprime à travers un désir, une quête de disruption permanente, elle engendre, de par sa logique propre, de par la logique qui est née au cœur du mouvement hippie, elle engendre des nouvelles structures qui doivent être très puissantes pour créer des technologies magiques comme les nouveaux iPhones ou toutes sortes de technologies disruptives. Ça nécessite des structures très importantes et même leur désir messianique de changer le monde les pousse à créer ces structures gigantesques, énorme, avec tous les travers qui vont avec, les inégalités que ça engendre au niveau mondial, la concentration des ressources, et même bon, il y a tout un tas d'effets qui étaient contestés par les hippies et qui réémergent dans ces sociétés de la Silicon Valley.
Merci beaucoup Rémi Durand. L'évangélisme technologique, c'est paru aux éditions FIP dans la collection Reboot. Merci d'avoir été avec nous.